Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, depuis toujours, les fleurs fascinent les hommes. Source d'inspiration pour les artistes, les écrivains, les poètes. Les fleurs, cependant, gardent encore quelques secrets que les botanistes cherchent toujours à percer. Une fleur, rien de plus bête à première vue, et pourtant, son organisme unique fait d'elle un être à part. Organes sexuels béants et sans pudeur, nous respirons bien volontiers leurs effluves. Mais justement, comment et pourquoi une fleur dégage-t-elle un parfum? Comment se déclenche le processus de floraison? Les fleurs sont hermaphrodites, elles possèdent à la fois les organes sexuels mâles et femelles, alors comment font-elles pour ne pas s'auto-féconder? Enfin, quelles sont les possibilités de modification génétique en matière de floraison? Nous allons aborder toutes ces questions avec Christian Dumas. Christian Dumas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Alors, en préparant cette émission, je vous ai demandé si vous étiez biologiste, botaniste, vous m'avez dit un peu tout à la fois, peut-être que vous nous en direz deux mots. En tout cas, vous dirigez l'unité mixte de recherche, reproduction et développement des plantes, associée à l'INRA au CNRS, donc au Centre National de la Recherche Scientifique et à l'École Normale Supérieure de Lyon. Vous avez été directeur scientifique du Jardin Botanique au parc de la Tête d'Or, et vous êtes tout récemment en fait devenu le président de la Société Botanique de France. Avec vous donc, nous allons pouvoir parler des fleurs, de ce système unique. Vous avez réalisé une conférence hier, une communication hier à l'Académie des Sciences, à laquelle j'ai pu participer. À laquelle j'ai pu assister, et vous précisiez tout de suite que les fleurs et les plantes donc avaient cette particularité de fabriquer des organes toute sa vie, qui était donc une des grandes différences avec les animaux. Christian Dumas.
Oui, alors c'est une différence, et dans le sens où l'animal en général a ces structures qui sont formées assez rapidement, et le jeune, à la sortie du développement embryonnaire, pratiquement, c'est la copie conforme de l'adulte à un facteur de taille près. Chez la plante, c'est tout à fait différent. Les plantes grandissent et produisent des organes tout au long de leur vie. Donc ça, c'est une singularité. Et cette singularité, elle a fait débat pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, où deux théories se sont affrontées. Une théorie qui remonte aux Grecs, à l'Antiquité grecque, qui en gros pensait que tous les êtres vivants, à la fois animaux et végétaux, étaient préformés, c'est-à-dire qu'en gros, si on prend le cas de l'homme se trouvait en miniature, sous la forme d'une petite maquette en modèle réduit qu'on appelle l'homunculus, dans la tête du spermatozoïde, et que la rentrée du spermatozoïde dans l'ovule, en fait, n'est que pour apporter à ce petit homme en miniature les éléments nutritifs destinés à le faire grandir dans le ventre de la mère pour devenir un adulte. Donc, cette théorie dite de la préformation a été imaginée et est resté pratiquement en vigueur jusqu'au XVIIIe siècle. Alors au XVIIIe siècle, un Allemand qui s'appelle Caspar Wolf a eu l'idée de regarder attentivement au microscope. C'est ce qu'un botaniste a appelé l'œil de lynx des microscopistes. Et au microscope, il a observé que les très jeunes embryons, par exemple chez le poulet, n'avaient ni bec, ni pattes, ni cœur, ni vaisseau, etc. Donc, ça remettait en cause l'idée d'un modèle réduit où tout est organisé et tout prêt pour former l'adulte. Il a aussi disséqué des bourgeons de plantes, en particulier de choux, facile, c'est mou,
oui,
et de marronniers, parce qu'il devait avoir un marronnier à portée de la main. Et il s'est aperçu qu'en enlevant les écailles du bourgeon et en regardant sous le microscope ce qu'il y avait à l'intérieur, eh bien, il n'y avait ni les rameaux, ni les feuilles, ni les structures que l'on voit chez la plante adulte. Donc, la théorie dite de la préformation a été complètement démolie pour laisser place à une autre théorie qui est toujours en vigueur, qui s'appelle la théorie de l'épigénèse, où tous les organes se forment au cours du développement.
Alors justement, nous allons pouvoir parler de la formation de ces fleurs, de ces plantes. Alors, on parle bien des plantes qui ont des fleurs, hein, c'est ça, hein, dans cette émission. Alors, vous parlez donc de zones de division qu'on appelle les méristèmes, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, toujours à la même période, effectivement, se posait la deuxième question. Si les organes se fabriquent tout le long de la vie, ça ne répondait pas à la question, mais où sont-ils formés ? Et c'est un autre scientifique qui s'appelle Negli, qui, toujours sous le microscope, a observé des territoires où des cellules se divisaient. Et à ces territoires, il a donné le nom, effectivement, de méristème, qui vient du grec, qui veut dire « se diviser ». Et chez les plantes à fleurs, puisque ce sont celles qui nous intéressent, il y a deux zones qui correspondent à des méristèmes, l'un pour former la partie souterraine, donc les racines, et l'autre pour former la partie aérienne. Et ce méristème suit un cycle dans sa vie. Tantôt, il va donner des rameaux, des feuilles, etc., donc une partie purement végétative. Et puis après, suivant les conditions, il pourra finalement se transformer, donner des fleurs.
Donc il est programmé, en fait, ce méristème, pour travailler à deux fonctions différentes.
Oui, je crois qu'il y a une image qui est assez exacte et en même temps très simple, qui permet de bien comprendre ce qui se passe. Dans le langage biologique qu'on fait souvent, et peut-être même trop, mais c'est comme ça que malheureusement les choses se passent, on fait beaucoup d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'en fait, on ramène tout à l'homme parce que l'homme, c'est le centre de la planète et que finalement, tout le monde cherche à voir et à comparer par rapport à l'homme. Donc, si je prends une comparaison par rapport à l'homme, la fleur, c'est le siège des organes sexuels. On en reparlera probablement tout à l'heure. Et si, toujours, je fais cette analogie par rapport à l'homme, les organes sexuels chez l'homme ou chez la femme deviennent matures au moment de la période qu'on appelle l'adolescence. Et chez les humains, il y a même ce qu'on appelle une crise d'adolescence. Et à l'issue de cette crise d'adolescence, qui se passe plus ou moins bien, eh bien, la sexualité s'affirme, et finalement, la fonction sexuelle peut être remplie.
Alors pour les plantes, il y a une crise d'adolescence de la plante.
Alors effectivement, pour moi, je considère que la plante qui subit avec le fonctionnement de son méristème qui fabrique des feuilles, des rameaux, etc., subit et a besoin de se développer pendant un certain temps. L'adolescence chez l'homme, elle n'a pas lieu à 7-8 ans. L'adolescence, c'est une phase qui est plutôt vers, on va dire, 13-15, dans cette zone d'âge-là. Et cette zone d'âge correspond à un certain âge de développement. Eh bien, chez la plante, il en est exactement de même, c'est-à-dire que la plante doit avoir un certain âge de développement pour pouvoir fleurir. Alors, dans certains cas, pour vous donner deux exemples, vous avez la tulipe qui va fleurir à partir d'un bulbe. Bon, elle va fleurir tout de suite. Et par contre, si vous prenez un chêne ou un peuplier, il va nécessiter plusieurs dizaines d'années quelquefois, pour arriver à floraison, au moins une dizaine d'années. Donc là, se voit bien la notion de somme de développement. Et pour en revenir à la crise d'adolescence, et l'analogie avec la crise d'adolescence, eh bien cette crise, au moment où le seuil de maturité est atteint, le méristème, dans le bourgeon, va changer son programme de division. Et au lieu de fabriquer des feuilles et des rameaux, par exemple, eh bien, ce programme va cesser. Le méristème va changer les zones qui sont en division. Et le dôme, la partie sommitale de ce méristème, qui est une espèce de, on va dire, de boule, hein, pour faire une image simple, eh bien, la partie apicale de ce territoire va gonfler. Et vous allez avoir élaboration d'une structure intermédiaire qu'on appelle l'inflorescence. Et sur cette inflorescence, d'autres petits résidus de méristème vont donner les fleurs.
Alors justement, nous arrivons donc à la fleur. Comment va se déclencher le processus de floraison? Comment on passe du bourgeon à une ouverture de la fleur? La formation, en fait, ça y est, elle peut s'ouvrir, cette fleur?
Bon, bien, c'est là où justement, je parlais de crise d'adolescence, hein, pour continuer cette analogie entre l'homme et la plante et la fleur. Donc la crise d'adolescence chez la plante à fleurs, c'est cette transformation qui affecte le méristème. Alors la question est, quels sont les facteurs qui déclenchent finalement cette crise d'adolescence? Chez l'homme, il y a toute une série d'hormones qui peuvent intervenir. Qu'en est-il chez la plante? Eh bien, chez la plante, il y a plusieurs facteurs. Tout le monde sait, peut-être de manière empirique, et si vous faites du jardinage, ou si vous allez à la campagne, ou si vous avez des origines un petit peu familiales de côté campagne, comme beaucoup de Français, vous savez que si vous introduisez une plante, si vous habitez le nord de la France, si vous introduisez une plante du Midi, ou voire même de régions plus subméditerranéennes, si vous l'introduisez chez vous, peut-être aurez-vous la surprise que cette plante magnifique qui fleurissait bien dans son site d'origine, eh bien, ne fleurira pas, fleurira très mal chez vous. Donc, les facteurs du milieu, en particulier la longueur du jour, le rapport longueur du jour sur longueur de nuit, plus vous descendez vers l'équateur, plus vous avez un équilibre jour-nuit. Et à l'équateur, vous avez longueur du jour égale longueur de la nuit. Par contre, si vous allez en direction du pôle, vous savez qu'il y a le soleil de minuit, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir à l'opposé des journées qui durent quasiment 24 heures. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, on va dire qu'il y a des journées très longues. Et nous, ici, en France, nous sommes un petit peu entre les deux. Néanmoins, il y a des saisons. En hiver, les jours sont courts. Mmh. En été, les jours sont longs. Ce qui vous frappe et frappe tout le monde, c'est qu'à une période comme maintenant, c'est-à-dire au printemps, vous avez explosion de fleurs. Mais certaines plantes peuvent fleurir en hiver. Prenez le cas des noisetiers. Ça fleurit en hiver, au mois de décembre ou janvier. Et puis, vous avez des plantes qui fleuriront en été et d'autres qui fleuriront en automne.
Donc, la durée du jour n'est pas le facteur suffisant.
Alors, la durée du jour est un facteur sous nos climats souvent nécessaire. Mais il y a des plantes pour lesquelles c'est complètement indifférent. Un exemple, le pissenlit, que tout le monde connaît. Si vous avez un petit bout de jardin et si vous êtes amené à tondre votre pelouse, et si vous n'avez pas une pelouse qui est parfaitement entretenue, vous allez avoir des pissenlits qui vont se mettre dans votre pelouse. Eh bien, les pissenlits vont être parmi les premières fleurs à sortir. Donc, mettons, vous allez faire une première coupe de votre pelouse au fin mars, vous allez commencer à tondre les pissenlits. Et puis, une fois tondu, tous les 15 jours, mettons, vous allez retondre votre pelouse et vous aurez la surprise de voir tous les 15 jours des pissenlits. Vous en aurez en été, vous en aurez en automne, vous en avez tout le temps. Et ça, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous trouvez. Là, vous avez affaire à une plante qui se fiche éperdument des conditions environnementales. Donc celle-là, elle a un système...
Elle résiste à tout.
Elle résiste à tout, elle a un système de floraison, on va dire, autonome. Elle est indépendante des conditions, on va dire, grosso modo, des conditions de longueur du jour et rapport longueur du jour, longueur de la nuit. D'autres espèces, prenez le cas du forsythia, que tout le monde connaît, il fleurit au printemps. Il prépare ses bourgeons l'année d'avant, il fleurit au printemps. Les véroniques, on a des petites véroniques actuellement en fleurs, vous avez là des plantes qui fleurissent avec des jours quand même relativement courts. Le colza, c'est pareil. Les champs de colza sont magnifiques actuellement. Bon, vous avez là des exemples de floraison de type jour court. Prenez les chrysanthèmes. On s'acharne à faire des chrysanthèmes chez nous uniquement pour la Toussaint, il y a d'autres endroits où c'est une plante ordinaire, mais ce sont des plantes plutôt de jours longs, qui vont nécessiter une quantité de jours longs pour fleurir. Alors ça, c'est un paramètre. Un autre paramètre, c'est la température.
Est-ce que vous expliquez avec les plantes que l'on déplace, enfin qui sont dans le sud et qu'on veut essayer d'intégrer dans le nord, par exemple?
Par exemple, mais il y a un exemple que sur un plan agronomique que vous avez tous vu, c'est que à l'automne, on sème le colza. Et ce colza commence à pousser et forme des petites rosettes. Cette petite rosette de feuilles, elle doit recevoir une certaine quantité de froid pour que au printemps suivant, c'est-à-dire maintenant, le colza puisse fleurir. Et si il n'y a pas cette petite quantité de froid, eh bien la plante ne fleurit pas. Autrement dit, c'est une espèce où vous avez à la fois des conditions de longueur de jour et des conditions de température. Il faut ce qu'on appelle une vernalisation, de vernalis qui veut dire printemps, hiver. Donc c'est une quantité de froid qui est nécessaire. Donc vous avez déjà deux groupes de facteurs externes, la lumière et la température. On a vu qu'il y avait des plantes qui étaient indépendantes, autonomes. Alors ça, c'est un schéma qui s'adapte à nos régions. Mais imaginez que nous soyons dans des zones tropicales. Eh bien, dans les zones tropicales, il n'y a pas de froid. Si vous regardez les espèces, en particulier les arbres, vous allez voir que sur un même arbre, vous pourrez avoir des fleurs toute l'année, des fleurs, des fruits, tout ça sur les mêmes branches. Et un des paramètres, là, souvent, c'est une saison sèche, une saison humide, sachant que les autres paramètres sont à peu près constants. Et dans les régions complètement équatoriales, il n'y a pas vraiment de zone de période sèche et de période humide, eh bien là, ce peut être d'autres conditions, par exemple des conditions cycloniques. Il y a des espèces qui ne fleurissent qu'après un cyclone, par exemple. C'est-à-dire, elles sont pas défeuillées complètement, mais presque. Et c'est ce stress violent induit par un paramètre externe qui peut engendrer la floraison. Donc vous voyez qu'en fait, c'est très compliqué. Et il n'y a pas une règle générale, il y a toute une série de paramètres, il y en a qui semblent assez généraux, type lumière, température, mais faut pas croire qu'il y a une seule règle et que cette règle s'adapte à toutes les espèces. Ça dépend des conditions où elle vit.
Et ça, c'est pour les facteurs externes.
C'est uniquement pour les facteurs externes.
Dans la seconde partie, nous allons peut-être aborder les facteurs internes et peut-être cette question du florigène. Avant, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler de ce fameux florigène. À tout de suite. De notre émission Éclairage en compagnie de Christian Dumas qui appartient à l'Académie des sciences, je ne l'ai pas précisé au début de notre émission. Avec vous Christian Dumas, dans cette seconde partie, nous allons pouvoir parler cette fois-ci des facteurs internes qui participent au processus de la floraison. Alors, quelles sont les questions qui se posent sur les facteurs internes?
Alors, il y a deux types de facteurs internes sur lesquels effectivement on peut réfléchir. J'ai toujours, pour continuer l'analogie, crise d'adolescence et éventuellement hormones.
Là, on parle plutôt de protéines, en fait, pour les plantes. Hein.
Oui, mais il n'y a pas que des protéines. Il y a une hypothèse qui a été formulée dans les années 1930 par un Russe à l'issue d'expériences finalement assez simples. Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait des plantes qui ne fleurissaient, par exemple, qu'en jour long. Si vous les cultivez en jour court, elles ne fleurissent jamais. Elles restent à l'état végétatif. En cultivant des plantes de jours longs, uniquement en jours courts. C'est-à-dire que vous les mettez dans des conditions où elles ne fleuriront pas. Si vous greffez un petit morceau issu d'une plante qui, elle, a été cultivée en jours longs et qui est donc apte à fleurir, si vous faites cette opération de greffage, eh bien, vous allez induire chez la plante incapable de fleurir, vous allez induire la capacité à fleurir. Autrement dit, tout se passe comme si un message était passé du greffon au porte-greffe à travers le cal cicatriciel du greffage. Et à partir du moment où vous avez une substance qui est formée quelque part et qui agit loin de son site de formation, en biologie, souvent, on donne le nom à cette substance d'hormone. C'est ce que ce Russe, qui s'appelle Chalayan, a fait, et il a formulé un concept à l'époque. Et il a donné le nom de florigène à cette substance hypothétique, mais quand même qui correspond à une réalité physiologique liée à l'expérimentation, il lui a donné donc ce nom de florigène.
Et maintenant, aujourd'hui, ce florigène, est-ce qu'on le voit ? Est-ce que...
Alors ça, c'est une excellente question. Pendant, on va dire que pendant près de 70 ans, toute une série d'équipes, au fur et à mesure où les méthodes d'analyse étaient de plus en plus sophistiquées, où on pouvait analyser des quantités de plus en plus petites, donc les physiologistes ont essayé de transformer ce concept purement physiologique en un concept chimique, c'est-à-dire mettre une entité chimique derrière ce florigène. Et bien là, ça a été l'échec. Alors pourquoi ça a été un échec ? Ça, on peut s'interroger. Sachant que, expérimentalement, en greffant, ça marche.
Ça marche.
Donc, il y a vraiment quelque chose. Alors, la génétique est venue au secours, comme ça s'est passé au cours de ces 25-30 dernières années, elle est venue au secours des physiologistes, des botanistes, pour leur apporter des éléments de réponse. Et ça, c'est le deuxième volet des facteurs internes. En effet... Il existe une plante modèle en biologie végétale qu'on appelle l'arabette des dames, du nom savant d'Arabidopsis thaliana. Donc cette arabette, on peut inactiver un certain nombre de ses gènes. L'arabette a 27 000 gènes, c'est-à-dire légèrement plus que l'homme, ce qui, en considérant le nombre de gènes, nous mais quand même dans une certaine forme d'humilité, on va dire, quand on voit la toute petite taille de cette arabette qui fait quelques centimètres, on va dire une dizaine de centimètres par rapport à l'homme, effectivement, ça interroge. Et j'ouvre une parenthèse ici, l'année dernière, ou il y a deux ans, la revue américaine, la prestigieuse revue Science, a fait finalement toute une série d'articles sur les résultats des séquençages des génomes, comparant le génome humain, etc. Et bien sûr, l'arabette faisait partie du lot, en intitulant l'un de ses articles « Pourquoi l'homme a-t-il si peu de gènes ?» Point d'interrogation. Effectivement, pour notre côté nombrilistique dans le schéma évolutif, l'homme étant effectivement la réussite de l'évolution, enfin une des réussites de l'évolution, ça allait un petit peu à l'encontre de ce qu'on espérait, c'est-à-dire qu'on espérait que l'homme, il ait beaucoup plus de gènes que tout le monde.
Que l'arabette.
Voilà, et surtout des plantes. Hein. Donc, pour en revenir à cette relation entre la génétique et la floraison, on peut inactiver chez l'arabette pratiquement tous les gènes. Donc, il existe dans le monde des collections de mutants, et un certain nombre de ces mutants sont affectés dans la floraison. Par exemple, certains mutants vont fleurir plus vite. D'autres fleuriront plus lentement. Et d'autres, enfin, ne fleuriront pas.
C'est comme des chronomètres, en fait. Hein?
Voilà, un petit peu ça. Et en génétique, quand on a un mutant, en général, par les techniques de génétique, on peut identifier le gène correspondant à la mutation. Donc ça a été le cas. Et toute une série de mutants ont permis d'analyser les voies de contrôle de la floraison dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple l'influence de la longueur du jour sur longueur de nuit, l'influence du froid, et la voie autonome, c'est-à-dire pour les plantes qui sont complètement indifférentes, tout ça a été décortiqué Donc on a identifié des gènes et les gènes fonctionnent grâce à des protéines. Et les gènes forment des réseaux. Il n'y a pas un gène tout seul, ça forme des réseaux. Donc les réseaux sont largement décortiqués, même si on est loin de tout connaître, mais enfin on connaît déjà pas mal de choses. Et parmi les éléments tout à fait intéressants de ces dernières années, eh bien, il a été trouvé deux choses. D'une part, un gène dont la protéine se trouve exprimée uniquement dans le méristème, ce petit territoire à l'origine des fleurs. Et d'autre part, on sait que les feuilles sont les organes qui reçoivent les signaux externes. Donc j'ai parlé des petites rosettes de colza sur le coup de froid hivernal, mais les feuilles reçoivent aussi la lumière et perçoivent la différence longueur du jour, longueur de nuit. Donc on a identifié au niveau des feuilles une protéine capable de migrer par la voie de la sève jusqu'au méristème, et cette protéine vient s'associer avec la précédente. Et c'est cette association qui est responsable pour partie de la mise à fleur, puisque si on neutralise une de ces deux protéines, eh bien effectivement la floraison est soit retardée, soit complètement bloquée. Donc on a mis le doigt physiquement sur quelque chose formé dans les feuilles, transmis au méristème, qui peut correspondre à ce florigène. Donc là, on a probablement une des composantes du florigène. Et l'histoire n'est pas terminée.
L'histoire est encore en construction.
C'est une histoire qui est très très chaude, puisque cette semaine, dans la revue Science, la prestigieuse revue américaine, il y a plusieurs articles qui traitent de cette question.
Alors on va avancer un peu dans l'émission puisque le temps passe et malheureusement il y a encore tellement de choses à aborder. Maintenant que ce processus de floraison s'est enclenché, la fleur s'est ouverte et là on va pouvoir aborder un sujet racoleur qui est donc la sexualité des plantes, simplement la reproduction. Alors la plupart des plantes, 90%, sont hermaphrodites en fait, hein, c'est ce qu'on apprend au collège, donc à la fois possèdent les organes sexuels mâles et femelles. Comment ça se fait-il qu'une plante ne puisse pas s'auto-féconder?
Alors vous avez raison, c'est même plus que 90%. Il y a 96%, donc on est près de 100%, des plantes à fleurs qui possèdent organes mâles et organes femelles sur le même individu. Là, dans ces 96%, on va dire qu'il y en a plus des trois quarts où organes mâles et organes femelles sont dans une même fleur. Autrement dit, les risques d'auto-fécondation sont très grands. Et s'il y a auto-fécondation, il y a perte de la capacité adaptative et très rapidement dégénérescence et normalement disparition des espèces. Chez les plantes, elles ont colonisé tous les milieux. Elles sont très nombreuses. Autrement dit, c'est une réussite en termes évolutifs. Si les plantes ont réussi malgré le fait qu'elles sont fixes, elles sont immobiles, autrement dit, elles ne peuvent pas aller, comme le font les animaux, chercher leur partenaire sexuel. Donc, elles ne peuvent pas chercher leur partenaire sexuel. Autrement dit, elles subissent la rencontre de pollen, puisque ce sont les pollens qui sont les vecteurs mâles au niveau de la sexualité. Au moment de la pollinisation, elle est un petit peu aléatoire et sur une surface réceptive femelle, qu'on appelle le stigmate. Sur cette surface réceptive, vous pouvez avoir des pollens de la même espèce, mais aussi des pollens étrangers.
Bien sûr.
Autrement dit, imaginez du pollen de chou sur la surface réceptive femelle d'une fleur de peuplier. On pourrait s'attendre à avoir des hybrides entre chou et peuplier. On ne voit pas ça dans la nature. Ça veut dire qu'en fait, il y a des barrières au niveau génétique qui permettent d'identifier le partenaire mâle, de le reconnaître, de l'accepter ou de le rejeter. Et en fait, chez les fleurs, il y a un système qui est extrêmement sophistiqué, qui est un petit peu analogue au système humain. Vous savez que chez l'homme, toujours ce que tout le monde pense connaître au moins un petit peu, il y a ce qu'on appelle des compatibilités de greffe. et ces compatibilités de greffe sont déterminées par ce qu'on appelle le système HLA. Il faut avoir des systèmes HLA compatibles pour que ces opérations de greffe puissent se faire. Eh bien, le système génétique qui contrôle l'acceptation et le rejet du pollen s'apparente en termes de fonctionnement, en termes de génétique pure, à ce système très sophistiqué qui est le système HLA. Mais, chez les fleurs, il y a un double système. Le premier qui est reconnaître ce qui est différent de soi,
oui,
d'espèces différentes, ce qu'on appelle le non-soi en immunologie. Donc ça reconnaît le non-soi et ça le rejette. Et à l'intérieur de l'espèce, ça reconnaît le soi génétique et ça le rejette aussi. Et ça favorise, toujours à l'intérieur de l'espèce, ce qui est légèrement différent, donc le non-soi. Donc ça fonctionne en sens inverse du système immunologique. Et les déterminants génétiques, là, commencent à être très bien connus depuis, on va dire, une bonne, presque une vingtaine d'années. Et notre groupe à Lyon a largement contribué à ces connaissances sur les récepteurs côté femelle qui décodent en quelque sorte le message apporté par le mâle et sont capables, à la lecture de ce message, de rejeter ou d'accepter le pollen, autrement dit, d'entretenir la variabilité génétique nécessaire au développement des espèces.
Alors là, ce sont pour les fleurs. Là, même si on s'éloigne un peu du sujet, comment ça se passe pour les plantes vertes ou pour les plantes qui n'ont pas de fleurs? Où sont leurs organes sexuels puisqu'on ne les voit pas?
Alors c'est une très bonne question. Alors il faut distinguer là aussi deux catégories. On va dire qu'il y a des plantes qui n'ont pas de fleurs colorées comme ce qu'on appelle les plantes à fleurs, du nom savant d'angiosperme. Mais il y en a qui ont des fleurs. Si vous garez votre voiture sous un pin au mois de mars, par exemple, mars début avril, vous risquez d'avoir votre voiture absolument couverte de pollen, avec une balayette, en récupérer un seau sous un pin. Autrement dit, si vous avez du pollen, le pollen, ça s'apparente à la fleur. Et bien là, ce qui manque, en fait, c'est quelques structures qui, chez les plantes à fleurs, forment la fleur. Mais les organes reproducteurs sont là. C'est-à-dire que vous avez la partie mâle et vous avez la partie femelle. Ce qui manque, c'est les pièces autour.
Alors, ce sont les feuilles, certaines feuilles?
Exactement. Chez pins, sapins, etc., qu'on appelle les gymnospermes, vous avez des petits cônes, des emboîtements qui ressemblent aux inflorescences de tout à l'heure, c'est-à-dire à ces assemblages de fleurs. Eh bien, ces cônes, soit sont mâles, soit sont femelles. Et s'ils sont femelles, l'ovule est porté, mais nu, sur une écaille qui correspond à une feuille fertile. Mais il est nu, au sens où il n'est pas protégé, enveloppé par un ensemble de tissus qui, chez la fleur, forme ce qu'on appelle le carpelle ou le pistil, si vous avez plusieurs carpelles. Donc ça, c'est une différence entre les plantes à fleurs et les gymnospermes qui sont proches, évolutivement parlant, des plantes à fleurs. Mais il y a d'autres plantes vertes, les mousses, les fougères, etc., où là, les organes sexuels existent, mais ils sont cachés.
Ils sont sous la feuille, par exemple, sous la fougère,
par
c'est ce
exemple,
qu'on en voit.
Tout à fait. Bon, là, il faut effectivement regarder ça à la loupe, voir au microscope. Et dans ces cas-là, l'eau est absolument nécessaire, puisque vous avez les gamètes mâles qui vont nager en direction des structures femelles. Ce qui n'est pas le cas dans la fleur, puisque les gamètes ne sont pas mobiles. Et il est nécessaire dans la fleur que le pollen germe, pousse un tube, et c'est ce tube qui va véhiculer les deux gamètes qui vont assurer la fécondation.
Alors je vous propose de marquer une seconde courte pause, Christian Dumas, et dans les 10 dernières minutes qu'il nous restera, nous aborderons peut-être le parfum des fleurs, qui sert aussi à la reproduction, et puis nous aborderons aussi la question de l'homme et de la main de l'homme, et des espoirs ou des inquiétudes génétiques. À tout de suite.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés? Ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Christian Dumas. Christian Dumas, dans cette troisième partie, nous allons reparler des fleurs. Nous étions repartis un petit peu sur les plantes vertes, les graminées. Là, nous allons nous repencher sur les fleurs. Ces fleurs dégagent un parfum. Alors, bien sûr, à chaque fois, il y a une utilité, une fonction particulière. Première question, comment cela se fait-il qu'une fleur ait une odeur, déjà, avant de savoir à quoi ça sert ?
Je suis d'accord avec votre questionnement. Il y a une chose qu'il faut toujours un petit peu éviter quand on fait de la science, c'est le côté finaliste. À quoi ça sert ? On a l'impression, quand on raisonne comme ça, on a l'impression qu'on revient au créationnisme, c'est-à-dire que tout est prêt, a été créé par un être supérieur et qu'en fait rien ne bouge.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Christian Dumas. Christian Dumas, dans cette troisième partie, nous allons reparler des fleurs. Nous étions repartis un petit peu sur les plantes vertes, les graminées. Là, nous allons nous repencher sur les fleurs. Ces fleurs dégagent un parfum. Alors, bien sûr, à chaque fois, il y a une utilité, une fonction particulière.
En pratique, je crois qu'il vaut mieux poser la question d'une forme d'évolution des organismes. Et effectivement, certaines fleurs émettent des parfums, pas toutes. Y a des parfums qui sont très odorants, et quand je dis très odorants, ça veut dire que là encore, l'homme les perçoit. Mais le nez de l'homme est pas très très bien, le nez de la femme un petit peu mieux. On dit que les femmes sont plus sensibles aux odeurs que les hommes, mais toujours très mauvais si on compare les organes olfactifs avec certains animaux et les insectes. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une co-évolution, c'est-à-dire que l'évolution ne se fait pas de façon linéaire, elle se fait par saccades, il y a des tas de tentatives, il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent. Et les insectes qui étaient présents à la surface du globe avant les fleurs, avant les plantes à fleurs, se sont aussi développés, c'est-à-dire qu'il y a eu une radiation énorme des plantes à fleurs, et corrélativement, on observe une radiation énorme des insectes. Et chez les fleurs, il y a insectes et animaux, faut aller aux ansarges, mais les insectes sont effectivement de grands travailleurs pour la pollinisation. Eh bien, cette coévolution, que ce soit des insectes ou des oiseaux, il faut s'imaginer que ces animaux ont deux préoccupations majeures. La première, c'est de se reproduire. Et la deuxième, c'est se nourrir pour réussir à se reproduire. S'ils visitent les fleurs, c'est pas pour la beauté des fleurs, c'est parce que les fleurs renferment des substances dont ils se nourrissent. Il y a deux types de substances dont ils se nourrissent, des liquides sucrés qu'on appelle les nectars, et le pollen qui sert aussi de source de nourriture pour insectes et oiseaux. Donc le parfum, c'est un dispositif qui favorise l'identification pour les insectes des sources de nourriture, et le vol des insectes ou le vol des oiseaux est très coûteux sur un plan énergétique. Donc si l'animal ne reçoit pas en contrepartie de sa visite une nourriture très riche, rapidement il abandonnera cette stratégie et il se tournera ailleurs. Le fait que le nectar soit un liquide sucré, c'est-à-dire des substances hautement énergétiques, remplit cette fonction. Donc, vous voyez qu'il y a eu cette co-évolution. La fleur a besoin d'un tiers pour l'aider à se polliniser de façon croisée avec d'autres fleurs. Et l'insecte, lui, a besoin
en contrepartie
de nourriture. Et finalement, c'est la co-évolution de ces deux qui permet d'assurer la pollinisation dans d'excellentes conditions.
Effectivement, voilà, vous avez resitué un petit peu le pourquoi du comment. Effectivement, c'est pas en ces termes-là, pas à quoi ça sert, mais effectivement en termes de coévolution. Mais juste savoir comment une plante peut-elle dégager un parfum ? Quelle est la substance qui fait qu'elle dégage un parfum ?
Alors, il y a souvent localisé en surface, c'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent comme ça, de petites glandes qui sont soit diffuses à l'intérieur de la fleur, soit regroupées en glandes plus structurées. Et ces glandes ont un métabolisme particulier avec des gènes qui codent pour des enzymes qui interviennent sur un substrat, comme toutes les enzymes, et l'activité de cette enzyme sur ce type de substrat induit la libération de molécules parfumées. Et les fleurs libèrent comme ça des bouquets de parfums. Mais sachez que des feuilles, par exemple, lorsqu'elles sont broutées par des insectes herbivores, et c'est très souvent le cas, eh bien les feuilles libèrent aussi des bouquets de parfums.
Oui, ou même par exemple les feuilles de tomate, par exemple,
oui, libèrent. Oui, tout à fait, parfum. Simplement au contact mécanique, ça libère des parfums. Donc, l'aptitude à libérer des parfums, on la cristallise souvent dans les fleurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les fleurs, mais il y en a aussi ailleurs que dans les fleurs.
Alors, la dernière question, le dernier sujet qu'on va aborder, c'est la main de l'homme hein, dans cette question de toute cette question de botanique. C'est dans l'air du temps, hein, les modifications génétiques qui existent déjà. Hein, voilà. Quels sont les espoirs dans les possibilités de modification génétique en matière de floraison, par exemple? Est-ce que l'on pourrait, de manière génétique, essayer d'avoir des plantes avec beaucoup de fleurs et d'activer une pollinisation, par exemple? Quelles seraient les possibilités à venir, qui sont déjà existantes?
Alors, il y a des tentatives. Par exemple, je vous ai signalé les arbres qui nécessitent des années, voire dizaines d'années, pour fleurir. Eh bien, on a réussi, il y a 2 ans, en laboratoire, à faire fleurir des peupliers, qui normalement mettent une dizaine d'années au moins pour fleurir, en quelques semaines. Donc, réduire le temps nécessaire à la floraison, c'est quelque chose que l'on peut espérer, si c'est nécessaire, en intervenant sur les cascades de gènes responsables des voies de la floraison dont j'ai parlé tout à l'heure. Un autre intérêt potentiel, alors il faut voir aussi toujours l'intérêt par rapport à l'existant, serait de produire des plantes essentiellement femelles. En effet, quand vous avez des plantes qui portent des organes femelles et des organes mâles, il y a quelque part un gaspillage, puisque finalement vous n'avez pas besoin de beaucoup de pollen pour polliniser la partie femelle et assurer finalement ce qui est important en agriculture, c'est-à-dire la production de graines et de fruits. Un exemple assez symptomatique, quand on met du maïs en champ pour produire des grains, pour produire ce qu'on appelle des semences, eh bien, vous avez 6 rangées de maïs où vous avez la panicule tout à fait au sommet qui produit le pollen, puis vous avez l'épi avec les barbes,
oui,
qui est l'organe femelle. Eh bien, en général, on émascule, c'est-à-dire on coupe la partie sommitale, on ne laisse que l'épi femelle avec ses soies, et on ne met qu'une rangée de maïs avec des fleurs mâles que l'on laisse, pour polliniser toutes les autres. Donc, on supprime ce gaspillage quelque part lié à cet hermaphrodisme ou cette présence des deux sexes sur un même pied dont vous parliez tout à l'heure. On peut imaginer aussi avoir, si c'est nécessaire, plus de pétales. La nature sait faire ça. Il y a des mutations spontanées. Pensez aux roses paumées. Ce sont des mutations spontanées qui ont été sélectionnées par l'homme qui a trouvé ça curieux, et ensuite ça a été intégré dans les schémas de sélection et d'amélioration des plantes. Il y a toute une série d'améliorations qui sont possibles. Alors, est-ce qu'elles sont absolument indispensables? C'est une autre question. Mais on peut, je crois, décliner un très grand nombre d'applications potentielles autour de ces voies portant sur les connaissances relatives à la fleur.
Parce que derrière ça, en fait, c'est la question des OGM, des organismes génétiquement modifiés.
Oui, alors là, ces deux questions sont liées, mais la deuxième, qui en France particulièrement, est souvent très mal posée, fait l'objet de polémiques parce que les informations sont données de manière extrêmement mauvaise. Alors, il y a deux, trois niveaux de responsabilité. Le premier niveau, ce sont les scientifiques qui n'expliquent pas suffisamment les mécanismes, du moins en termes suffisamment précis. Deuxième niveau de responsabilité, ce sont de fausses informations scientifiques qui sont mises en relais par les médias et qui affolent les populations. Et le troisième niveau de responsabilité, ce sont les politiques qui ne savent pas prendre leurs responsabilités vis-à-vis de situations comme ça. On donne plutôt la primeur au scoop catastrophique qu'à la réalité scientifique. Et si je prends ces 10 dernières années, c'est un domaine que je connais particulièrement bien, celui-là, si on prend les 10 dernières années, chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui ressemblait à une preuve scientifique de la dangerosité des OGM, toujours, les faits scientifiques n'étaient pas avérés. C'est-à-dire qu'en fait, si les expériences étaient refaites, eh bien, elles démontraient que c'était une erreur et on a propagé de fausses informations scientifiques de façon à affoler les populations et à monter les populations contre cette technologie qui est une technologie d'avenir.
Est-ce que, juste pour terminer sur ce sujet, qui est quand même un sujet de débat, alors c'est vrai que pour le coup terminer là-dessus, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, mais ma foi, tant pis, nous sommes lancés là-dessus. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne connaît pas encore les conséquences sur des champs avec, par exemple, on parle plus souvent du maïs, hein, un champ de maïs génétiquement modifié à côté d'un autre champ de maïs qui n'est pas génétiquement modifié. On ne connaît pas encore les conséquences du pollen, hein, qui n'a pas de frontières et qui pourrait traverser les champs et contaminer, puisque c'est le terme qu'a utilisé, contaminer d'autres zones. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas ce que ça va faire dans,
oui, mais là,
dans la nature.
Là, vous reposez toujours un problème qui est assez général. C'est on introduit un gène ou quelques gènes dans une construction génétique pour faire une plante manipulée génétiquement, ce qu'on appelle une OGM. Mais si vous mangez un tout petit bout de feuille de salade, vous mangez des milliards de gènes. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, l'homme a toujours mangé et transformé la nature sans se poser de la question de savoir comment s'étaient faits les croisements. Dans la nature, il y a eu des tas de croisements qui se sont faits naturellement. Donc ce risque auquel vous faites allusion, qui a été mis en avant comme un risque quasiment...
Mais il est vrai qu'on ne connaît pas encore, on ne sait pas. Dans un sens comme dans l'autre.
Oui, c'est pas tout à fait vrai dans le sens que vous le dites. Il y a quand même plus de 100 millions d'hectares qui sont cultivés génétiquement, notamment en Amérique du Nord, hein, États-Unis, Canada, mais aussi Argentine, Brésil, Afrique du Sud, Chine, etc. Donc il y a toute une série de pays qui ont opté pour ces technologies. C'est pas comme dans le domaine de la chimie, où les chimistes allaient faire des expérimentations dans des pays, on va dire, du tiers-monde, et puis de temps en temps, il y avait des explosions parce que les contraintes en termes sécuritaires étaient moindres. Donc, on prenait de vrais risques. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les expérimentations en grandeur continentale sont faites dans des pays où l'information n'est pas bâillonnée, à haute technologie scientifique, hein. Donc, en fait, c'est plus une crise idéologique qu'il y a derrière ces OGM. Et il y a un autre problème, pour lequel là, effectivement, ça mérite une grosse réflexion, c'est le problème de la brevetabilité. Il y a une dualité entre la brevetabilité du vivant et les brevets sur les OGM versus américains et Office mondial du commerce, et la brevetabilité ou la non-brevetabilité en Europe, où on a le certificat d'obtention variétale. Donc ça, c'est un vrai problème, et il faut que l'Europe s'arc-boute dans la défense de ce certificat d'obtention variétale. C'est quoi ce certificat ? Ça veut dire que je fabrique une plante en croisant du pollen avec l'organe femelle, j'ai une nouvelle variété, j'ai le droit exclusif de commercialiser cette nouvelle variété, parce que c'est une innovation, d'accord ? Mais vous pouvez venir prendre à nouveau du pollen et à partir de cette innovation, recréer quelque chose d'autre. Et vous ne devez rien à personne. Si c'est une plante OGM, là, vous allez être assujetti à un brevet parce qu'on va pouvoir suivre, tracer exactement le gène que vous aurez utilisé. C'est pas acceptable parce que finalement, c'est tout le patrimoine de l'humanité et tout le travail de l'humanité en termes d'amélioration des plantes qui a été fait et que vous vous appropriez d'un coup. Donc, là encore une fois, il faut que l'Europe s'arc-boute sur ce certificat d'obtention variétale. C'est ce que j'avais dit quand j'avais représenté l'Académie des sciences au débat parlementaire sur les organismes génétiquement modifiés.
Eh bien, merci Christian Dumas de nous avoir donné toutes ces précisions, toutes ces explications. Alors effectivement, nous sommes partis des fleurs pour arriver finalement aux OGM, mais c'est une question quand même qui méritait d'être soulevée et je suis contente d'avoir votre avis. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler dans une autre émission avec peut-être un détracteur pour avoir quand même un avis a priori favorable, hein, puisqu'on l'a compris, hein, vous êtes plutôt quand même dans le sens des OGM. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en faire une émission avec quelqu'un.
Oui, alors, un rectificatif. Je suis contre de fausses affirmations scientifiques.
Contre de fausses affirmations, d'accord, alors voilà. Alors, vous êtes contre de fausses affirmations scientifiques.
C'est-à-dire que je suis pour l'utilisation d'une technique de manière raisonnée, mais je suis absolument contre la diffusion de toute une série de faux scientifiques qui abreuvent le marché de l'information, les émissions de télévision, même les plus récentes. Là, on tombe dans le domaine proprement scandaleux de désinformation de l'opinion.
Eh bien, merci Christian Dumas et j'invite donc nos auditeurs à aller faire un tour et sur le site de l'Académie des sciences où, chers auditeurs, vous en saurez un peu plus sur Christian Dumas ainsi que sur les conférences et les communications qui sont publiques à l'Académie des sciences tous les mardis. Et puis, bien sûr, je vous invite à écouter toutes les autres émissions que nous vous proposons dans notre médiathèque sur Canal Académie. Merci encore une fois et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.